Ding dong. Ding dong.
La bande passante.
La bande passante.
Laurence Pierre.
De Berlin à Tokyo, de Barcelone à Paris, de New York au Mexique et partout sur les plus beaux festivals, voilà quelques années maintenant qu'on devise sur son élégance macabre servie par une voix d'outre-tombe posée sur un funk lent et noir, entrepassé New Wave et Italo Disco, en route vers un futur ésotérique et pourquoi pas post-punk. Litanie vénéneuse qui vous entortille les idées dans les pas d'une danse saccadée, un brin acide. Album court en 2014, baptisé Through the Circles et néanmoins copieux, qui l'avoue inspiré par l'enfer de Dante. Un deuxième album court l'année suivante où il est question de tarot et de sa 13e carte qui représente une faucheuse squelettique, coupeuse de tête, plus quelques collaborations bien senties. Aujourd'hui, un nouveau titre en éclaireur d'un premier album apparaîtra à la rentrée. Ça s'appelle The Inner Out Album. On voulait être aux premières loges. Pour autant, qu'y a-t-il derrière le rideau? Qui es-tu, la muerte? Bonsoir Alexandre Berly.
Bonsoir.
Et merci d'être avec nous ce soir. Alexandre Berly dit la muerte. On va évoquer ce nouvel album ce soir, apparaître à la rentrée donc, ce sera le 13 octobre très précisément. L'évoquer plutôt que l'écouter, puisque étant donné sa date de sortie, c'est quand même un peu tôt pour le dévoiler, donc on va faire durer le suspense. Je sais qu'il est terminé cet album, voilà c'est fait. Est-ce que vous avez hâte qu'il vive sa vie? Est-ce que vous appréhendez sa sortie?
Forcément, je pense que la sortie on y pense le jour où on valide le master du disque. Donc,
C'était quand?
C'était en avril.
Ça fait un bout de temps quand même.
Ça fait un bout de temps, mais...
Pour quelle raison?
Mais tout le travail autour du disque, en fait, toute la pochette à ce moment-là n'était pas encore terminée. Il y a le choix des singles, la stratégie en fonction des vacances.
Mais c'est du marketing dont vous me parlez, non?
Non, c'est pas du... Enfin... Oui.
C'est pour accompagner bien la sortie, en fait, parce qu'il y a plein de choses qui vont se passer autour de ça. Il y a un live en préparation.
Absolument. Non, mais c'est surtout que, à l'heure du streaming, en fait, où les albums, en fait, les albums d'aujourd'hui ont le temps de vie des singles de l'époque, en fait. Et, enfin, pour moi, pour nous, c'est important d'essayer de les faire vivre le plus longtemps possible, parce que c'est une grande partie, enfin c'est un gros investissement personnel de notre part, et on veut qu'il soit, on espère qu'il soit valorisé à sa juste valeur.
Nous pénétrons l'univers de la muerte ce soir. Voici cette nouvelle production issue de The Inner Out, l'album. Bonsoir à tous les amis et bienvenue dans cette maison qui recèle bien des secrets à l'intérieur.
Never did a thing. Never.
Ça s'appelle The Inner Out, c'est le titre qui donne son nom à ce nouvel album. Ce morceau est déjà sorti, La Muerte. De quoi s'agit-il ? Sombre, discoïde, rétrofuturiste, vénéneux, c'est ce que je disais. On a écrit beaucoup de choses sur votre style musical, décalé, fun, dansant, mais assez punk dans sa conception. De l'électro, un brin clash qui grésille, qui frombie et qui... thriller, italo-disco doublé d'un funk futuriste qui pousse clairement vers le dance floor. Est-ce qu'on retrouve un petit peu tout ça dans ce futur album, électroclash, italo-disco? Est-ce que vous êtes d'accord avec tous ces mots qui sont apposés sur votre musique? Évidemment, ce sont des étiquettes, ça va pas vous plaire.
C'est vrai que c'est toujours un peu compliqué d'essayer d'agréger tous les qualificatifs parce qu'on les a pas forcément en tête quand on compose la musique.
Bien sûr.
Mais oui, effectivement, enfin je pense qu'il y a un peu de tout ça dans l'album.
Vous dites plus simplement, j'essaie de faire une musique chaude et organique.
C'est mon souhait en tout cas. Et en fait, j'aime bien l'antagonisme en fait entre les machines que j'utilise qui sont très froides parce que c'est un son complètement synthétique et justement essayer de leur insuffler une certaine vie, une certaine dimension organique, de générer des erreurs, de les faire vivre en fait, de les humaniser hein, d'une certaine manière.
Que raconte cet album ? Après, on parlera du choix du format long, puisque vous êtes aussi un producteur de format court et un DJ. Mais que raconte cet album de 10 titres ?
Il y a plusieurs niveaux de lecture. C'est ce que j'essaye de faire en fait d'une manière générale autour de ma musique. J'essaie de donner aux morceaux plusieurs niveaux, que ce soit individuellement ou dans le groupe qu'ils composent au niveau du disque. Bah, pour le premier album, pour moi, c'était l'occasion de faire un bilan justement de mes premiers EP et de vraiment me confronter à l'exercice du format long. Et il y a forcément une dimension toute personnelle de l'expérience de l'album, que ce soit de la conception, la réalisation. Donc, tous les rappels à des souvenirs de lecture, des choix esthétiques. Il y a vraiment plusieurs...
Avec une espèce de pénombre quand même, et puis plein de petits secrets cachés derrière chaque porte, non ?
J'essaye aussi. Après, j'adore, par exemple, au cinéma, j'adore le concept des Easter eggs. J'aime bien qu'il y ait des... En fait, j'essaye de faire en sorte que les morceaux puissent avoir aussi plusieurs écoutes et plusieurs niveaux d'écoute avec des clins d'œil plus ou moins assumés et affirmés. Oui, c'est une sorte de jeu de piste avec moi-même, mais aussi avec... j'essaie de le faire exister entre l'auditeur et moi.
La Muerte, c'est vous qui plantez notre décor ce soir. Vous êtes le sélecteur de cette bande passante et merci beaucoup. Alors plutôt qu'un long discours, on redécouvre Ted Milton avec ce Love is like violence.
Is like violence. Love is like violence. You're not listening, you're dreaming, I can see in your eyes. Dreaming is forbidden, it's strictly for the spies. Dreaming is forbidden, now the groom may kiss the bride. Now the train draws into the station. Someone does not arrive. You are going to make a statement, but you've already been tried in a department of poetic justice where they pack the pretty lines. Found failing to make the connection, found reaching for the sky. You're not listening, dreaming. Forbidden.
Le saxophone fou de Ted Milton, on est en 1984, La Muerte, un titre choisi par vous, que je découvre vraiment. C'est le personnage qui vous intrigue, ou plutôt les années 80, qui semble être une grosse influence pour vous quand même.
Mais un peu tout.
Et c'est drôle, ou les audaces de certains avant-gardistes, comme ce Ted Milton en question.
Aussi, mais c'est marrant parce qu'en le réécoutant, il y a vraiment un côté électro. Enfin, ça me fait penser à Egyptian Lover, un peu le pattern de batterie et même le groove de la basse. C'est assez drôle. Mais oui, c'est un peu tout. Les années 80.
L'électroclash des années 2000 aussi. Moins.
Oui, parce que c'est le courant qui m'a amené à la musique électronique. Mais qui était lui-même très très inspiré des années 80.
Avant d'être La Muerte, vous êtes bassiste dans un groupe plutôt punk, et puis le public vous l'apprivoisez en tant que clavier sur la tournée du français Yann Wagner, dont on attend un nouvel album, un premier album je crois bientôt. Nous sommes en 2013 et c'est l'époque où vous rencontrez David Cho sur le label duquel vous êtes. L'action se passe à Berlin. Entre bassiste post-punk et clavier de Yann Wagner, vous êtes DJ. À quel moment avez-vous commencé à composer et à produire?
En fait, c'est venu assez progressivement, parce que oui, effectivement, j'ai commencé la musique en étant bassiste dans des groupes de punk sans lendemain, vraiment, enfin des groupes de lycée, pour être très clair.
Et cette basse, elle est toujours présente dans vos productions d'ailleurs?
Elle l'est toujours. En fait, je l'ai réinstituée parce qu'en fait, j'avais dû vendre ma basse pour des besoins financiers et j'ai pu en acquérir une nouvelle. Donc oui, elle est revenue au centre de ma musique. J'ai perdu le fil de votre question, je suis désolé.
On était à Berlin avec David Cho et puis on était sur la scène avec Yann Wagner. Vous avez été DJ aussi, à quel moment est-ce que vous avez produit véritablement?
En fait, j'ai commencé à vraiment produire quand j'ai appris, quand je me suis intéressé au logiciel de production en fait. Et de manière autodidacte, donc en fait j'ai balbutié, j'ai tâtonné, et c'est difficile de poser une date en fait, mais dans ces eaux-là.
Ce qui est sûr en plus, c'est que votre carrière s'est fortement accélérée dans les années 2013-2014.
Absolument.
Avec toutes ces rencontres, dont celle avec David Cho, mm-hmm. qui est le patron de votre label. Vous êtes un passionné des synthés analogiques également.
Oui, malheureusement.
À l'instar d'un Arnaud Robotini, ça déborde de chez vous.
J'ai une carrière plus jeune que celle d'Arnaud, donc j'ai eu moins de temps pour en acquérir, mais je commence à en avoir quelques-uns, oui.
Arnaud Robotini, c'est Blackstrobe, dont faisait partie David Cho avec Yvan Smag.
Absolument.
Grosse influence pour vous.
Oui.
Dans votre sélection ce soir, La Muerte, ce producteur islandais Russian Girls, qui sort aujourd'hui ce Autopilot. Sur la pochette de son premier court, fameux Through the Circles en 2014, il apparaissait sur un cliché en noir et blanc et lunettes noires, accroupi et feuilletant des bacs de vinyle. Boulimique de son, passion, vinyle, essence de la découverte. La découverte de Russian Girls, production 2017 avec ce Autopilot à l'instant. La Muerte, son nouvel album. La suite, après 3 minutes, sur l'état du monde. À tout de suite dans la bande passante.
Passante. Laurence Pierre.
Il fut d'abord Thanaton, moitié du duo de DJ bien connu des milieux interlopes parisiens. Antéros et Thanaton, la mythologie grecque n'a qu'à bien se tenir. Ou quand l'amour et la mort se mélangent, les pinceaux, puis en solo La Muerte qui définitivement lui va comme un gant. Premier album à paraître en octobre qui déploie 10 nouveaux chapitres comme autant d'histoires, souvenirs, symboles. Processus long, fastidieux, douloureux, dit-il, mais aussi l'incarnation d'une aventure qui vient contrarier la culture de l'instantané. La Muerte partage son univers avec nous ce soir. Rebonsoir Alexandre Berly.
Bonsoir.
Des rencontres importantes dans votre début de carrière, on en reparle. Je pense à Mathias Aguayo, Alejandro Paz, Marco Passarani, DJ Harvey, David Cho bien sûr. Des villes qui ont compté aussi dans votre début de carrière, Berlin ou Tokyo, grosse tournée au Mexique également. Et une sélection savoureuse que vous partagez avec nous, dans laquelle on retrouve Yellow, Super Pitcher ou Asphyxiation. Un détour par Montréal avant cela, en compagnie de Bastien Brun. Bonsoir Bastien.
Bonsoir Laurence.
Yeah, yeah. Le prochain titre s'appelle Black Lights. Chantez si vous la connaissez, alright? Yeah, yeah. J'étais sous les black lights quelque part dans un party downtown.
J'étais à l'école de tous mes amis d'enfance.
Montréal ou les milieux interlopes parisiens en Corse, et selon où l'on découvre le rapport coriace avec un K et deux S, véritable phénomène au Québec, de passage en Europe et Paris pour y dévoiler son nouvel album Love Supreme, Bastien.
Comme beaucoup de rappeurs québécois, Emmanuel Dubois, de son vrai nom, fait rimer l'anglais et le français. Sur Love Supreme, Félix du meilleur disque rap au Québec l'an passé, une victoire de la musique en beaucoup mieux, à Corias s'est inventé un double nommé Coriart.
J'ai comme un personnage qui est très arrogant, qui est très imbu de lui-même sur l'album et qui veut entrer dans la légende à tout prix, puis qui me ressemble pas tant que ça, même si ça fait partie de moi dans un certain sens. Le Love Supreme vient aussi du mot suprématie, puis c'est un espèce de dictateur qui veut établir sa suprématie, être le best possible, et ça vaut rien finalement.
Coreas alias Coreart, qui évoque dans cette chanson Backlights l'overdose de sa meilleure amie, un Coreas qui a récemment embrassé la cause des femmes.
Notamment en dénonçant la culture du viol dans un texte intitulé Natural Born Féministe, traduire féministe née.
J'écrivais sur un blog qui s'appelle Urbania, puis j'ai publié un billet qui parlait de l'agression sexuelle qu'a subi ma conjointe, et c'est devenu viral chez nous. Je me suis fait inviter à faire une conférence dans un lycée, et de fil en aiguille, je me suis fait inviter à faire des plateaux télé pour en parler et d'autres conférences dans les écoles, donc j'ai pris une responsabilité.
Je suis pas un pimp, tout ce que je veux, c'est montrer mes skills. Je pourrais juste faire le con puis frapper des kisses, faire ma promotion en ruinant des noms sur mes disques. Je pourrais compter des billes sur le dos du monde que j'ai dis. Je pourrais rentrer au gym, sculpter des muscles galbés qui pètent des records, faire plus de filles, c'est légitime que le sperminator. Je pourrais mater des catalogues ou m'acheter ma vie comme un... Ou bien je pourrais rapper comme Aurel San et faire dans la provoque. Je pourrais être un sadomaso trippé sur le cuir les îles. Je pourrais être un
rappeur conscient, comme on dit en France. Coreas n'en défend pas moins la culture hip-hop.
J'essaie de pas utiliser le rap comme bouc émissaire, hein. C'est un problème de société. C'est pas juste dans le rap c'est une conséquence de ce problème de société. Moi, quand je suis allé au bar de danseuses nues, quelques fois que je suis allé, ben c'était pas des rappeurs avec des billets de banque que je voyais, c'était des pères de famille, des gens normaux, là. Il y a beaucoup de problèmes dans le rap, mais je pense qu'il y a de plus en plus de rappeurs qui prouvent que on ouvre l'esprit là, tranquillement.
Je dis, garde ton job, ok? Hey! Garde ton job! Garde ton job! Garde ton job! Garde ton job! Garde ton job!
On conserve son emploi, mais une précision quand même, les bars de danseuses nues, à savoir les boîtes de striptease, sont beaucoup plus répandues au Québec qu'en France. Un paradoxe dans une société souvent considérée comme matriarcale et très progressiste en matière de droits des femmes. Mais pour le titre de son quatrième et dernier album en date, Coreas fait évidemment référence à A Love Supreme de John Coltrane, un monument du jazz qu'on ne présente plus. D'ailleurs, Coreas a sa propre définition de l'amour véritable.
Comme moi, c'est pour les loups, je les suis fixé sur un rail, même si tout le monde autour est doux, doux, doux pour me sentir alive. Je bois mes coups durs dans les shooters, getting house sous les couvertures.
Réellement, l'amour suprême, c'est l'amour qui est réel, qui n'est pas superficiel, qui n'est pas éphémère, l'amour qui dure, l'amour que j'ai pour mes enfants, pour ma famille et tout ça. Puis c'est un peu ça, l'album aussi, c'est d'essayer de revenir à la base un peu plus souvent.
Mais c'est pas ce que je voulais être, j'ai vendu mon nom pour une place en dessous des spotlights, blanchis mes dents pour les flashs, pour entrer dans la légende, même j'en aurais vendu ma part. Je voulais déranger les gens pour entrer dans le ventre de la bête, mettre une étampe sur le temps, mettre de l'essence sur la presse. J'ai perdu qui je suis vraiment pendant ma descente aux enfers, crier mon nom pour le monde, répandre mes cendres dans la mer. Ce soir le roi est mort, enlever le crown sur ma tête.
Coreas avec la chanson-titre de son album Love Supreme. Initialement programmé lors des Francofolies de Montréal, le rappeur s'est décommandé, justement pour des raisons familiales. Ses prochains concerts au Québec sont prévus pour mi-juillet. Il sera le 10 juillet à Passe-Pébiac, le 11 juillet à Percé ou le 12 juillet sur l'excellent festival de Petite-Vallée. Une longue tournée s'annonce ensuite.
Merci beaucoup Bastien Brun pour cette rencontre.
À très bientôt Laurence.
On peut peut-être ajouter que tous les beaux souvenirs de la bande passante d'Alain Pierre philo lors des dernières francopholies de Montréal sont sur le site musique.rfi.fr à la page de l'émission La Bande Passante, justement. C'était la semaine dernière, à réécouter sans modération. Retour à nos affaires, où quand l'âme ORT se mêle de remixer les compos du patron, funk minimal et séduction maximale, No More White Horses, revisité, c'est David Cho and the Beat.
The ones who care, they don't know. The ones you know don't care anymore. There are no more white horses or pretty ladies at my door. The ones who care, they don't know. The ones you know don't care anymore. There are no more white horses or pretty ladies at my door. The ones who care, they don't know. The ones you know don't care anymore. There are no more white horses or pretty ladies at my door. Oh, and the ones who care, they don't know. The ones you know don't care anymore. There are no more white horses or pretty ladies at my door.
Mix, une relecture qui remonte au début de votre collaboration avec le français anglophile David Cho. La Muerte, c'était en 2013 sur l'album So It Goes, The Dance Version, auquel participait d'ailleurs la crème des producteurs techno ou électro, si je me souviens bien, Jennifer Cardini, Richard Fearless, Dombrance, Massimiliano Pagliara et beaucoup d'autres. David Cho, cet ex-Blackstrobe, un groupe marquant des années 2000, racontez-nous la rencontre avec celui qui est votre patron, entre guillemets, depuis 2013, je crois, et auquel vous restez fidèle.
Avec Yann, on a rencontré David sur la tournée de Yann. On jouait au...
Yann Wagner.
Nous jouions au Temps Machine, qui était à l'époque programmé par Rubinsteiner. Et David faisait la première partie, donc avec David Cho and the Beat. Et nous avons passé la soirée ensemble, un peu trop bu. Et au final, en fait, il m'a demandé de lui envoyer. Forcément, on parlait de ce qui nous occupait et je lui disais que j'avais des démos à finir, en fait, la semaine juste après. Et il me disait qu'il fallait que je lui envoie. Et on s'est échangé nos numéros. Et le truc est super drôle, c'est que en plein milieu de la semaine, je reçois un appel d'un numéro inconnu et c'était lui qui me sommait de lui envoyer mes démos absolument. Et à la fin de la semaine, je lui ai envoyé et le lundi matin, j'étais chez lui pour un rendez-vous pour le petit déjeuner.
Vous savez ce qui l'a séduit de vous ?
C'est une excellente question, il faudrait lui poser.
C'est vrai ?
Ouais, non, c'est vrai.
Vous avez parlé de Blackstrobe ?
Un petit peu, forcément, mais pas trop. Pas trop, parce que c'était un épisode qui était terminé pour lui de toute façon. Et on est, enfin, même si on aime bien le passé, on chérit le passé plus distant que celui plus proche de nous.
Qui est la personne qui a décidé que vous alliez vous appeler La Muerte ?
C'est Hugo Capablanca. Non, enfin, il n'a pas décidé, mais c'est la personne qui a suggéré ce nom, c'est Capablanca. Enfin, Hugo Capablanca, qui est un ami espagnol émigré à Berlin depuis une dizaine d'années, avec qui je joue régulièrement en DJ et avec qui j'ai fait de la musique aussi.
Berlin, une ville importante, tout comme Tokyo, où vous avez fait de très belles rencontres.
Absolument. Berlin fait partie de ces villes où je me sens chez moi, en fait, dès que je foule le sol de l'aéroport. Et c'est très, très confortable à vivre. Enfin, en tout cas, je m'y sens vraiment très, très à l'aise. On peut être soi-même, écouter la musique qu'on veut, faire exactement, absolument ce qu'on veut, sans se soucier du regard des autres ou d'un quelconque jugement. C'est un peu, ouais, c'est très anglo-saxonne, finalement.
Et pourtant, vous restez parisien.
Oui, j'ai songé à déménager fut un temps à Berlin, mais en fait non, l'hiver est vraiment rude à Berlin.
Eux ont véritablement marqué les années 80, tiens on y revient et on va revenir aussi à Tokyo, vous allez m'en reparler, c'est Yellow qui est en bonne place dans votre sélection.
Truth, baby, truth. has to be smooth, baby, smooth. Why don't you fly, baby, fly? Please tell me why, baby, why?
Whispers, nous sommes en 1983, il s'agit de Yellow, bien sûr, Dieter Meyer et Boris Blanc. Comment peut-on expliquer la muerté, la fascination qu'on peut ressentir pour ce duo extrêmement novateur des années 80? Pourquoi les avoir choisis? Les avez-vous choisis pour ce visuel très fort peut-être et la membrane de mon enceinte qui vacille véritablement, pour le coup, production énorme.
Oui, le son est vraiment très très bien.
Ouais, enfin, ouais.
Bah, moi, c'est tout ce qui me parle. En fait, j'ai tout leur concept, les textures de son qu'ils emploient, la construction des morceaux, enfin la voix, j'aime tout chez Yellow en fait. C'est avec par exemple Deutsche Amerikanische Freundschaft, ils font partie de ces groupes soit suisses pour Yellow, soit allemands qui me fascinent un peu. Et j'aime bien, enfin c'est froid et en même temps ça groove. Il y a un côté un peu, enfin qui est parfois un peu dada et un peu surréaliste. C'est très riche. Et mécaniquement chaud.
Vous allez me dire ce qui vous a séduit aussi du côté de la famille Comémé. Ah. On parlait de Tokyo, je crois que c'est là que vous les avez rencontrés, Mathias Aguayo et puis Alejandro Paz. Pareil, un son très très particulier pour cette famille chilienne.
Oui, alors Mathias, je l'avais rencontré avant justement, parce qu'avec Hugo Capablanca, dont nous avons parlé tout à l'heure, on avait fait des morceaux dans son studio avec Philippe Gorbatchev, qui était aussi signé sur Comémé à l'époque. Et effectivement, j'ai rencontré Alejandro Paz à Tokyo pendant la Red Bull Music Academy, parce qu'il avait été sélectionné aussi, c'était un pur hasard. Et on s'est très 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 bien entendu en fait, c'était très naturel de par justement nos influences ou la manière dont on faisait de la musique en utilisant des vieilles machines de la même manière. Et oui, c'est un peu cette approche-là, c'est un peu le... Alors eux, c'est comme Mathias Aguayo est d'origine chilienne et Alejandro aussi. Donc c'est un peu eux, c'est la digestion justement de ce patrimoine musical européen. Avec des racines plus sud-américaines, mais du coup, en fait, on avait ce langage en commun, ces influences communes, et le dialogue était très très simple.
Comémé, sur lequel on retrouve la trace du producteur Reboyedo, qui devait se rapprocher ensuite de l'allemand Super Pitcher pour créer leur label Hippie Dance, dont voici une des toutes dernières productions que vous nous avez amenées.
Thank you.
Alors là, on est véritablement dans un son chaud, planant. Ce morceau s'appelle 1984, Super Pitcher, sur un EP The Golden Rave Days. Ça, c'est le nom d'une série de EP qui sont sortis avec parcimonie tout au long de l'année 2007. Je crois qu'il y en a 6 au total déjà.
Et c'est fort. Non, le cinquième va sortir, je crois, à la fin
en tout
du
cas,
mois.
Ça, c'est tout récent. On a l'impression que ça date des années 60, mais.
Ouais, mais en fait, j'adore l'orgue sur ce morceau. C'est pour ça que je l'ai pris, en fait.
Donc, une série de EP qu'il a sorti comme ça toute cette année 2017, où l'on se repose la question du format et du support. Voilà un artiste qui fait le choix de distiller ses productions dans le temps, comme ça, mais à un rythme très soutenu, plutôt qu'un album une fois par an. Est-ce que vous auriez pu choisir cette façon de faire? Ce que vous avez fait d'ailleurs avec les deux premiers EP finalement, 2013-2014, 4 titres à chaque fois, plutôt long.
Alors oui, après le fait est que Super Pitcher est à la tête de son label Hippiedance, et donc c'est forcément plus simple de faire des choix sur la stratégie de sortie. Et c'était un peu la même chose pour Botox quand ils avaient sorti leur album, où ils avaient aussi fait le choix de faire un single avec remix tous les mois. Alors, oui, après pour Super Pitcher, c'est un peu particulier parce que il y a certains, ces morceaux sont tous très longs. Ils dépassent les 10 minutes en moyenne.
Ouais, ouais, absolument.
Et du coup, en fait, sur un vinyle, en fait, en format 45 tours, on peut mettre 12 ou 14 minutes. Donc à chaque fois, ça justifie le fait de sortir un vinyle avec deux faces, enfin deux morceaux sur deux faces. Surtout que c'est moins vrai pour ce morceau, mais la plupart de ces morceaux sont jouables en club, donc pour les DJ qui sont aficionados du vinyle, c'est amplement justifié.
The Inner Out, votre album sort le 13 octobre, format des histoires, une dizaine d'histoires sur cet album dans un format un peu plus court. Est-ce que vous allez revenir au clubbing, à des productions plus longues faites pour le club? Quels sont vos projets? Vous dites avoir déjà amorcé une collaboration que vous espérez finir avant l'été, vous préparez le live pour cet album. Voilà, quels sont vos autres projets?
Mais c'est un peu tout ça. Effectivement, là, je suis en train de préparer le live pour la rentrée, qui est donc le prolongement du travail sur l'album, les faire vivre sur scène, ces morceaux. Et après, effectivement, j'ai déjà des idées de morceaux, des plans, des thèmes pour effectivement des morceaux un peu plus, avec un, disons, plus ancrés dans le club que les morceaux de l'album. Et effectivement, j'ai une collaboration en cours que j'aimerais finir.
Avec qui?
On le saura bien assez tôt.
D'accord.
Mais oui, donc tout ça, j'ai vraiment du pain sur la planche. Donc effectivement, je souffre pas trop de ce phénomène possible de baby blues post-album. Là, j'ai de quoi m'occuper. Au moins pendant l'été et a fortiori à la rentrée.
Merci mille fois pour avoir été là ce soir.
Merci pour votre invitation.
Voilà, et j'espère que ce Inner Out, premier single, va tourner sur toutes les radios et dans tous les clubs durant tout l'été jusqu'à la sortie de cet album. Merci beaucoup, on se quitte. Merci. Avec une très belle réédition aux confins du disco, peut-être, ou pas, avec ce groupe que vous avez choisi pour nous, Asphyxiation.
I have a list of many things which I intend to never do. Number one is at the top, the next one down is number two. Gee, I really think I shouldn't. No. The greatest thrill comes from knowing deep inside that I never, never, ever will.
Fin de cette bande passante. Merci mille fois à Alexandre Berly pour la redécouverte aussi de ce Asphyxiation Music d'une performance, me disiez-vous. 13 octobre merci. Prochain sur la belle Her Majesty's Ship, The Inner Out. Merci à Laurent Salerno, Pierre Vallée avec Bastien Brun qui ont préparé cette bande du vendredi. Retrouvez-nous sur Facebook pour commentaires et sensations. Et retrouvez Alain Pilot dès lundi en compagnie de Didier Sustrac. C'est une autre histoire. Bonne fin de semaine, portez-vous bien.